d'attirer nos cœurs, nos regards sur la personne divine, occupant dans les Écritures, sous diverses formes, une place sans fin. Disons premièrement, comme un court passage, dans l'Exode au chapitre 29, Exode 29, au verset 45, la pensée de Dieu en rapport avec le choix de son peuple terrestre. J'habiterai au milieu des fils d'Israël et je leur serai Dieu. Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Dans le Lévitique au chapitre 26, Lévitique chapitre 26 et au verset 11, et je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur, et je marcherai au milieu de vous. Dans Deutéronome au chapitre 6, au début du verset 15, l'Éternel, ton Dieu qui est au milieu de toi, est un Dieu jaloux. Et au chapitre 7, au verset 21, à la fin, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un Dieu grand et terrible. Nous savons bien que la personne du Seigneur et son œuvre constitue la pensée dominante de la parole de Dieu, un fil conducteur dès le début jusqu'à la fin des Écritures. Et cela parce que le Seigneur est au centre des pensées de Dieu, par lui et en vertu de son œuvre, son propos trouve sa réalisation. Dans sa grâce, l'Éternel, ayant vu l'affliction des Hébreux, s'est choisi ce peuple pour qu'il lui appartienne. Le critère de ce choix du côté de Dieu est son amour et sa fidélité. C'est ce qui nous est dit en Deutéronome 7. Parce qu'il l'a aimé et parce qu'il a gardé le serment. Et il s'est choisi ce peuple pour habiter avec lui, pour demeurer au milieu de ce peuple, mis à part pour lui, pour en faire un peuple qui lui appartient. Et dès qu'il est mis à part, tiré hors d'Égypte, soustrait à la domination du Pharaon, il lui donne ses instructions, lui fait connaître sa volonté, pour que soit réalisée cette habitation de Dieu au milieu de son peuple. C'était le but poursuivi par la bonté de Dieu en mettant ce peuple terrestre à part. Il est frappant de voir que Dieu qui habite dans les cieux, cette lumière inaccessible que nul œil n'a vu ni ne peut voir, dans sa condescendance, veut habiter avec l'homme sur la terre. Et d'autre part, alors qu'il a fait la terre pour l'habitation des hommes, il veut en faire, dans son propos, une habitation, un habitant du ciel. Et Dieu donc donne des instructions à son peuple pour habiter au milieu de lui, dont la première réalisation a été cette première maison édifiée, itinérante, dans le désert, qu'a été le tabernacle. Et la colonne de nuée vient sceller cette présence en raison de l'obéissance qui a marqué la réalisation pratique de cette demeure. Il est très frappant de voir que dans les chapitres 39 et 40 de l'Exode, pas moins de 18 fois, nous trouvons l'expression « comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse ». C'est parce qu'il y a eu une implicite obéissance à la volonté de Dieu que la nuée a pu remplir cette demeure et que l'Éternel vient habiter au milieu de son peuple. Tout avait été fait comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ceci met en accent combien précieuse, mais solennelle tout à la fois, à savoir que la présence divine au milieu des siens est conditionnée à l'obéissance. Cette première maison, appelée le tabernacle de la tente d'habitation, et cela pas moins de 3 fois, expression particulière, tabernacle qui signifie habitation et d'assignation qui signifie rencontre, un lieu où Dieu se rencontre et habite avec son peuple. Nous ne nous allongeons pas sur cet aspect, si précieux qu'il soit, de cette première demeure pour considérer, sans nous y arrêter beaucoup, différentes manifestations ou évocations dans le cours de la parole où Dieu lui-même, mais d'une manière particulière le Seigneur, dans des circonstances et des contextes très différents, occupe la place centrale. La personne du Seigneur est ce vers quoi convergeait de toute éternité tout le conseil divin, tous les conseils de Dieu. Et de lui et de son œuvre découlent toutes les bénédictions qui parviennent à l'homme dans tous les temps. Il est le point central du propos éternel. Quant à la réalisation en son temps avec ce peuple terrestre, nous avons donc ce peuple rassemblé, mis à part, une maison édifiée, la présence divine qui est là sous la forme de la nuée. Mais cette présence est conditionnée aussi à l'état du peuple qui doit être conscient des caractères de celui qui, dans sa condescendance, dans sa grâce, vient habiter au milieu de lui. Il doit savoir que c'est un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il ne donne pas sa gloire à un autre, et c'est un Dieu grand et terrible. Nous pourrions dire tels étaient les caractères de Dieu sous la loi, mais maintenant nous sommes sous la grâce. Mais Dieu n'abaisse jamais le niveau de ses droits, ni le niveau de sa sainteté, et nous avons à être pénétrés, nous aussi, qui par un effet de sa grâce et résultat de l'œuvre de Christ à la croix, sommes rassemblés autour du Seigneur, qu'il conserve tous les droits de sa Seigneurie desquels nous avons à être conscients, puisque nous nous réclamons du fait que nous sommes rassemblés au nom du Seigneur. Est-ce que la demeure, la présence divine au milieu de son peuple terrestre s'est poursuivie? Nous savons bien quelle a été l'histoire triste de ce peuple comblé de bénédictions, mais qui a démontré ce qu'est l'homme et ce qui ne fait que se répéter dans le cours de l'histoire de l'homme, à savoir qu'il démontre son incapacité de maintenir, de garder les privilèges, quels qu'ils soient, que la bonté divine lui dispense. Si nous prenons le temple de Salomon, nous savons bien que cette maison qui n'est plus itinérante, a elle aussi été remplie de la gloire de l'Éternel. Nous le voyons au début du livre des Rois, chapitre 8. La gloire remplit la maison. Va-t-elle rester là? Ceci dépendait de l'état du peuple, de la mesure dans laquelle il démontrait son attachement et sa fidélité. Mais il nous suffit d'ouvrir les livres suivants, notamment le livre d'Ézéchiel, pour entendre sous ses visions du prophète, ce qu'il en est advenu, la gloire, en raison de l'infidélité d'Israël, s'en va. La gloire s'élève de dessus les chérubins dans le temple de gloire de Salomon, et comme à regret, en raison de l'impureté, de l'infidélité, la transgression de ce peuple, la gloire s'en va. Nous la voyons s'élever de dessus l'arche, nous la voyons venir jusque sur le seuil de la porte, le seuil de la maison. Nous la voyons partir vers la direction de la ville pour aller jusqu'à l'Orient, du côté de l'Orient, et quitter Jérusalem. C'est un Dieu jaloux qui ne donne pas sa gloire à un autre, et la lampe, la présence divine, est enlevée. C'est ce que nous trouvons dans les chapitres 8 et 9, principalement, et 10, de ce prophète Ézéchiel, des passages qui nous sont familiers. Disons simplement quelques passages au chapitre 9, premièrement au verset 3. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était et vint sur le seuil de la maison. Il restera quelques fidèles sur les fronts desquels une marque sera apposée. Cette lettre T, ce signe tôt, signe qui traduit primitivement, qui exprime primitivement celui de la croix. Au chapitre 10, au verset 18, la gloire de l'Éternel sortit de dessus le seuil de la maison et se tint au-dessus des chérubins. Au chapitre 11, au verset 23, et la gloire de l'Éternel monta du dessus de la ville et se tint sur la montagne qui est à l'Orient de la ville. La maison ne comporte plus la présence divine, et ce temps s'est prolongé. Dans le temple de Zorobabel, réédifié sous le temps d'Esdras, la gloire n'est pas entrée. Lorsque dans l'Évangile, le Seigneur vient à Jérusalem, la gloire n'est pas entrée par sa personne. Il peut dire, votre maison est laissée déserte. Mais pour Israël, il y a néanmoins des promesses. Et la voix du même prophète, Ézéchiel, au chapitre 37, peut annoncer ce temps d'une future restauration moyennant l'humiliation du peuple. Il est beau de lire ces passages du chapitre 37 d'Ézéchiel, à la fin du chapitre, au verset 25-26, « Je ferai avec eux une alliance de paix. Ce sera avec eux une alliance éternelle, et je les établirai, et je les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, et ma demeure sera sur eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux à toujours. » Évocation d'un temps futur encore aujourd'hui, celui du règne millénaire, lorsqu'Israël, après avoir confessé sa faute, s'étant lamenté sur celui qu'ils ont percé, regardant vers lui, ayant reconnu son méfait, son péché, retrouvera après la venue du Seigneur et au travers d'indicibles souffrances, retrouvera la jouissance par le résidu de la communion avec son Dieu. Alors ce temple se réédifiera dans un temps futur en vue de l'établissement du règne millénaire ou pendant le règne millénaire. Mais nous aimerions nous arrêter davantage sur la place centrale que le Seigneur a occupé. Et nous lisons à cet égard quelques courts versets au début de l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, au verset 8e. Mais il y avait dans la même contrée des bergers demeurant aux champs et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, Et ils furent saisis d'une fort grande peur, et l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. » Peut-être en évangile selon Matthieu, au début, quelques versets seulement, au verset 7 du chapitre second, Matthieu 2, verset 7. Et alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit, « Allez et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Verset 11. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent ses dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Le Seigneur vient sur la terre. Sa venue avait fait l'objet de nombreuses prophéties. Et son peuple devait normalement l'attendre. Nous savons combien peu nombreux ont été ceux qui attendaient la délivrance, un résidu constitué de quelques personnes seulement. Cette scène où les bergers entendent cette voix de l'ange et cette gloire qui est rendue au verset 14, sont mises au bénéfice de communications particulières. Trois points sont à relever dans ce verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Le ciel donne gloire à Dieu, se réjouit à la pensée qu'un homme va venir sur la terre, vient sur la terre et va glorifier Dieu sur la terre. Il a été déshonoré par le premier homme et il va être parfaitement glorifié par le second homme. Sur la terre, paix. S'il n'y a pas de paix pour le méchant, dit l'Éternel, il y a celui qui vient et qui va apporter la paix, qui en sera pour l'homme déchu la source. Ce n'est pas la paix pour le ciel, mais c'est une paix en faveur de la terre. Sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Ce n'est pas pour les anges que le Seigneur est venu. Le salut n'est pas pour les anges déchus, mais pour les hommes. La paix sur la terre et la bénédiction et le salut dans les hommes et bon plaisir dans les hommes. Quel a été l'accueil qu'Israël, comme peuple, a réservé à la venue de son Messie? L'insensibilité, une absence totale d'intérêt a été démontrée. Et nous pouvons dire que Israël n'attendait pas plus le Messie annoncé que la chrétienté professante aujourd'hui n'attend le retour du Seigneur. Indifférence totale. Indifférence coupable. Néanmoins, Dieu se plaît à déclarer ces choses par les agents qu'il emploie. Il se plaît aussi à conduire des étrangers pour que l'honneur soit rendu à l'homme de son conseil, à la venue du Seigneur sur la terre. À défaut, de l'honneur et de l'accueil qu'aurait dû lui réserver son propre peuple. Les mages viennent d'étrangers et viennent entourer cette crèche dans laquelle se trouve le Seigneur petit enfant. Il est frappant de voir qu'ils s'approchent et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Nous pouvons dire que ces mages, malgré leur ignorance, ont été plus sages que la chrétienté professante qui s'incline et rend hommage à Marie. Ils s'inclinent, ils se prosternent devant lui et lui offrent trois dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or, ce qui revient à un roi, de l'encens, ce qui revient à un dieu, et de la myrrhe, figure de la souffrance, cette myrrhe qui accompagne le chemin du Seigneur de la crèche jusqu'à la croix, et qui témoigne de ce fait qu'il vient sur la terre celui qui sera l'homme de douleur. Trois caractères qui sont mis en évidence par les trois dons que font ces mages. En dépit de l'absence d'intérêt que démontre d'une manière coupable ce peuple qui aurait dû l'attendre et se réjouir, les honneurs lui sont rendus. Il demeure néanmoins le centre. Et quel centre caractérisé par l'humilité que celui de cette crèche dans laquelle est déposé cet enfant emmailloté, l'objet des conseils de Dieu, celui qui était l'objet des prophéties, celui par qui et par son l'œuvre duquel tout le conseil de Dieu va trouver sa réalisation. L'honneur lui est rendu, il est le centre, il est le roi, il est Dieu manifesté en chair, il sera l'homme de douleur. Si nous allons un peu plus loin, toujours dans l'Évangile selon Luc, et dans le même chapitre 2, nous trouvons une scène particulière, très connue aussi, qui relate un fait dans le cours de l'enfance du Seigneur. Au verset 41 du second chapitre, les parents étant montés à Jérusalem pour la fête, il nous est dit, ses parents allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand il eut 12 ans, comme ils étaient montés à Jérusalem, selon la coutume de la fête, et qu'ils avaient accompli les jours de la fête, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem, et ses parents ne le savaient pas. Mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, ils marchèrent le chemin d'un jour et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent à Jérusalem à sa recherche. Et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Et quand ils le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi ? Voici ton père et moi, nous te cherchions, étant en grande peine. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ?» Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth et leur était soumis. C'est peut-être la seule scène qui relate quelque chose de l'enfance du Seigneur. Nous savons qu'il était avec son père, qu'il a travaillé avec lui comme charpentier, mais ici nous avons une scène de son enfance, puisqu'il nous est dit qu'il avait 12 ans. Il est avec ses parents. On monte à Jérusalem, la fête étant achevée, on s'en retourne, et les parents cheminent un jour entier, n'ayant pas leur enfant à leur côté. on s'en inquiète, on est préoccupé, on retourne en arrière à sa recherche. Un frère, père de famille, nous exprimait cette pensée. Les parents savent-ils toujours où sont leurs enfants? On remonte, on le trouve à Jérusalem, au milieu des docteurs, au centre. Au milieu des docteurs, que fait-il, étant assis là, à Jérusalem, au milieu des docteurs, il écoute et il interroge. C'était le Seigneur de gloire, celui qui connaissait toutes choses parfaitement et divinement. Va-t-il enseigner ses docteurs? Il aurait pu le faire. Il ne le fait pas. Et nous voyons que le Seigneur a été parfait dans tous les états. C'est un enfant de 12 ans dont la sagesse est divine. Néanmoins, il est parfait dans sa condition d'enfant. Il ne la dépasse pas. Il n'enseigne pas. Il écoute et il interroge. C'est une instruction encourageante pour les enfants. Écouter, interroger. Mais malgré cette attitude, combien digne de remarque et d'adoration, si nous pensons quel était cet enfant vis-à-vis de ses docteurs, et l'Évangile est là pour nous dire quelles étaient souvent les pensées qui animaient ses docteurs, il est remarqué par son intelligence et ses réponses. Il est donc interrogé. Il interroge les docteurs, et à leur tour, les docteurs, alors, l'interrogent et leur répondent. Quelle attitude pleine d'enseignement et d'encouragement pour l'enfant, mais qui nous montre que le Seigneur était donc parfait dans sa condition d'enfant. Il ne l'a pas dépassé. Et retournant avec ses parents, après avoir déclaré « Ne savez-vous pas que je dois être occupé des affaires de mon père ?» Or, son père, nous le comprenons bien par la majuscule, que ce n'était pas Joseph. Néanmoins, il retourne avec ses parents et il nous a dit de lui « Il leur était soumis. » Quelle attitude ! Ses parents avaient certainement démontré de la négligence en marchant un jour sans se préoccuper de son absence. Ses parents savaient bien qu'il y avait dans cet enfant des caractères qui dépassaient tout autre enfant et qu'il savait infiniment plus que lui, qu'eux et que les docteurs, infiniment plus de choses. Et pourtant, le Seigneur leur était soumis. C'est aussi là un encouragement pour les enfants, puisque c'est le modèle parfait, l'exemple parfait. Si le Seigneur, comme enfant, était soumis à ses parents, quels seraient les enfants qui pourraient manifester de l'insoumission? Si nous passons un peu plus loin, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Ce sont ceux qui s'adressent à Jean le baptiseur au chapitre 1er, au verset 25, et qui lui disent, qu'ils interrogent Jean le baptiseur et lui disent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit disant, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi et duquel je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Ces choses arrivèrent à Béthanie ou au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Serviteur remarquable, le plus grand des prophètes, précurseur du Seigneur, Jean le baptiseur, appelé et formé pour préparer le chemin du Seigneur, et préparer l'état du cœur du peuple par la repentance pour recevoir son Messie. Repentance signifiée ou traduite par ce baptême de Jean le Baptiseur qui appartient encore à l'économie de la loi et qui ne saurait être confondu avec le baptême chrétien, ni non plus avec le baptême du Saint-Esprit d'Acte 2 lorsque le Saint-Esprit a été envoyé du ciel sur la terre pour baptiser en un seul corps tous les enfants de Dieu. C'est donc un baptême qui appartient encore à l'économie légale et qui avait pour effet et signification la repentance par laquelle le peuple devait passer, Israël devait passer, pour recevoir son Messie. Mais que dit, ceci en rapport avec le sujet qui nous occupe, que dit Jean le Baptiseur en évoquant la présence du Seigneur? Il y a au milieu de vous un homme que vous ne connaissez pas. Il attribue cette place centrale, il rendra du reste à son égard sept témoignages merveilleux au début de cet évangile selon Jean, sept témoignages à l'égard du Seigneur, mais il évoque sa présence comme étant celui qui est au milieu et qui est pour ce peuple un inconnu. Nous pensons parfois à ce qui pourrait ou devrait toucher nos cœurs en rapport avec la présence du Seigneur au milieu de nous. Nous réalisons par la grâce de Dieu, étant rassemblés comme rachetés du Seigneur, la présence du Seigneur au milieu de nous. Mais il pourrait y avoir une âme qui se trouve là, présente dans le lieu du rassemblement des rachetés, et qui ne connaît pas le Seigneur, et à laquelle pourrait s'adresser aussi cette déclaration, jadis dans la bouche de Jean le Baptiseur, « Il y a au milieu de nous un homme que vous ne connaissez pas. » Ce n'est pas le fait d'être présent dans le lieu du rassemblement qui octroie la relation vitale et le salut à l'âme. Est-il véritablement connu? Est-il véritablement le sauveur de chacun de ceux qui se trouvent là? Nous aimons à le penser, à le croire. Et c'est une parole solennelle qui, dans l'historique de ce passage, s'adressait à ce peuple terrestre de Dieu. Il y a au milieu de vous un homme que vous ne connaissez pas. Il pourrait y avoir ici une personne à laquelle cette parole pourrait s'adresser. Si nous passons un peu plus loin, au chapitre 22 de l'Évangile selon Luc, la page précédente, au verset 28, nous lisons depuis le verset 24. Nous savons que le Seigneur se trouve avec ses disciples la nuit dans laquelle il est livré, l'heure étant venue en laquelle il va accomplir son œuvre, exprimant au verset 15 « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. » Il institue donc ce qui sera le souvenir de son œuvre après la célébration de la dernière Pâque. Il institue ce qui sera le mémorial de ses souffrances et de sa mort, la scène. Mais alors que le Seigneur est troublé dans son esprit, selon ce que nous lisons dans l'Évangile selon Jean, parce que l'heure s'est approchée, alors que, réunissant ses disciples pour la dernière fois, avant son œuvre, avant de mourir, il assiste à cette dernière Pâque, la septième mentionnée dans l'Écriture et au sujet de laquelle il peut dire « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre ». Nous pensons, sans pouvoir le mesurer, ce qu'a pu éprouver le Seigneur en exprimant de telles paroles. Ce n'était pas le désir de mourir, ce n'était pas le désir d'être chargé du péché. C'était pour lui une réalité terrifiante que d'être fait péché. Mais ce désir, en rapport avec le fait que par son œuvre, se substituant à l'agneau pascal, il permettrait que Dieu soit satisfait quant à l'expiation du péché et que les écluses de la grâce puissent s'ouvrir à l'égard de la créature. Le conseil de Dieu en grâce pourrait trouver sa réalisation. Mais parlant de ses souffrances, exprimant à ses disciples ce que signifient ces signes qu'il institue et que nous avons le privilège de voir chaque premier jour de la semaine sur la table du Seigneur. Cette scène du Seigneur, si précieuse au cœur d'Irachté rassemblée à son nom, alors qu'il peut dire « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». De quoi sont occupés les disciples? Ils sont distraits. Ils n'entrent absolument pas dans les pensées du Seigneur alors qu'il leur parle de sa mort qui va survenir dans quelques heures, alors qu'il place devant eux ce souvenir qu'il va instituer, qu'il va leur laisser pendant le temps de son absence, alors que leur cœur aurait dû être saisi, rempli de tristesse en pensant aux souffrances qui seraient la part de leur Seigneur, ils sont occupés d'eux-mêmes. Nous devons bien reconnaître à notre confusion qu'il nous arrive aussi, au moment même où nous sommes là rassemblés autour du Seigneur au premier jour de la semaine, alors qu'il est au milieu de nous et que nous participons au mémorial de son œuvre et de sa personne et de ses souffrances, nous pouvons nous aussi parfois être distraits. Mais quelles sont les pensées qui les occupent alors que le Seigneur les entretient de son suprême abaissement, cet abaissement du chemin d'obéissance qui va jusqu'à la mort? Ils sont occupés de leur propre gloire. Et c'est ce que nous lisons dans ces versets, le verset 28, le verset 24, pardon. Il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Et leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui conduit comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais vous, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. À leur désir d'élévation, étant occupés de savoir lequel d'entre eux serait le plus grand, le Seigneur va répondre à ce qui était de nature à blesser ses affections en leur donnant la leçon d'humilité et en leur disant « Moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Au centre, comme celui qui se présente comme serviteur des siens. Par ailleurs, nous lisons cette déclaration que lorsque nous serons auprès de lui, il se plaira à se cindre, à faire mettre les siens à table et s'avançant, il les servira. Quel contraste entre ces cœurs orgueilleux des disciples, insensible quant aux souffrances du Seigneur, quant au mémorial de son œuvre qu'il vient d'instituer, et cette condescendance, cette grâce, cet amour du Seigneur qui se présente au milieu d'eux alors pour les servir. Il est très doux de voir, et c'est à notre confusion, mais quel sujet de louange et d'adoration, de constater la grâce du Seigneur qui fait ressortir le bien. Que dit-il à ses disciples? Vous êtes des insensibles à mon égard. Vous ne portez pas attention à ce que je viens de faire. Ce n'est pas ce qui leur plaît. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi. Dans quelle mesure avait-il persévéré avec lui? Et lorsque le Seigneur parle dans sa prière si remarquable de Jean 17, des siens à son Père, chacun peut le lire, parlant de ses disciples, il évoque pas moins de saints vertus, de ceux qui ont gardé sa parole, qui ont vraiment connu. Il évoque saints vertus. Il ne relève pas les faiblesses. Et là, la même chose, il peut leur dire dans cette scène si émouvante pour nos cœurs, il dit à ses disciples, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, et vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. Si l'on pense à Gethsémané, ils se sont endormis. Au chapitre 19 de l'évangile de Jean, Jean chapitre 19, verset 17, il sortit portant sa croix et s'en alla au lieu appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Son ministère est achevé, le Seigneur s'en va. Il dit par ailleurs, le Fils de l'homme s'en va bien, chargé de sa croix, sortant de Jérusalem, se dirigeant vers le lieu du conseil de Dieu. Il s'en va portant sa croix au lieu de Golgotha, cette montagne, ce Morija de jadis, cette terre dormant d'autrefois, ce Golgotha. Il s'en va. Il va être crucifié. Ailleurs, nous lisons dans d'autres évangiles, entre deux malfaiteurs, entre deux brigands. Mais ici, il est simplement dit, ils le crucifièrent et deux autres avec lui. Nous sommes dans l'évangile du Fils de Dieu. Et par rapport au Fils de Dieu, que sont les créatures? Brigands ou honnêtes hommes? Malfaiteurs ou hommes considérés des hommes, ce sont des autres. Il y a le Fils de Dieu et les autres. Pas de distinction. Mais c'est entre ces deux autres que le Seigneur est crucifié au milieu. Place centrale. Au centre du mépris, au centre de la réjection de la part de son peuple, de la haine brutale de la part des hommes. Il est là, dans l'obscurité, dans la solitude absolue, abandonné des siens, abandonné de son Dieu, abandonné de son cœur même. Il est là, au milieu, centre du conseil de Dieu, accomplissant cette œuvre par laquelle le fleuve de la grâce va déployer son cours. Crucifié au milieu. Mais un peu plus loin, au chapitre 20, le Seigneur étant ressuscité le premier jour de la semaine, il nous est dit au verset 19, « Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix vous soit ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains à son côté et les disciples se réjouirent. Donc, quand ils virent le Seigneur, Jésus donc leur dit encore « Paix vous soit ». Le Seigneur avait dit en Matthieu 18, « Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Combien cette promesse nous est précieuse, combien nous aimons à la rappeler. Dieu veuille que ce rassemblement autour du Seigneur au milieu des deux ou trois. Il faut être deux au moins pour qu'il y ait quelqu'un au milieu. Combien cette présence nous est précieuse, et Dieu veuille qu'elle nous reste précieuse. Il a été au milieu de son peuple sur la terre, mais il fallait qu'il soit au milieu, crucifié entre deux autres, pour que ce propos de Dieu et cette promesse du Seigneur d'être là au milieu des siens rassemblés trouve sa réalisation. Et au jour de la résurrection, au premier jour de la semaine, le Seigneur vient sceller sa promesse, attester la réalité de sa présence au milieu des siens. Il se présente là au milieu d'eux pour leur communiquer la paix. Lorsque le Seigneur est venu sur la terre, nous l'avons lu, par le message de l'ange s'adressant aux bergers, il leur annonce la paix. Mais quelle a été l'appréciation d'une telle venue de la part de son peuple? La croix. Quelle a été la réponse à son amour? La haine. Mais maintenant, la paix est pour ceux qui le reçoivent. La paix découle de son œuvre accomplie. Paix vous soit. La paix qu'il a faite par le sang de sa croix, la paix que la foi reçoit et de laquelle il jouit, cette paix de Dieu, cette paix avec Dieu, cette paix de Dieu, qui résulte de la paix qu'il a faite par le sang de sa croix. C'est le message qu'il adresse aux siens, le premier message, lorsqu'il se présente au milieu d'eux, leur démontrant la réalisation de la promesse qu'il leur avait laissée lorsqu'ils cheminaient avec eux. Renouvellement de cette scène, 8 jours plus tard, nous connaissons ce récit. Nous goûtons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, en dépit de nos faiblesses, la présence du Seigneur. Mais nous avons entendu ce qu'il était dit à l'égard du peuple terrestre de Dieu, qui sa présence au milieu de ce peuple devait les rendre conscients de ses droits. C'était un Dieu grand et terrible, c'était un Dieu jaloux. Nous avons au milieu de nous le Seigneur de gloire. Dieu veuille que nous soyons remplis de reconnaissance à la pensée de la grâce et de la condescendance du Seigneur, d'assurer et d'être là présent au milieu des siens. C'est une jouissance qui nous est accordée chemin faisant ici-bas, mais qui nous donne d'être conscients aussi des droits qui lui sont dus dans sa demeure. N'est-il pas la tête du corps glorifié dans le ciel, mais sur la terre, le Seigneur de son assemblée, le Maître de la maison, à qui revient tout honneur, toute obéissance, toute fidélité. Nous avons à être conscients des droits du Maître et de la Seigneurie de Christ dans sa maison. C'est dans cette mesure que les caractères d'un témoignage sont réalisés et que nous pouvons goûter pour sa gloire et pour notre bénédiction sa présence au milieu de nous, dans le lieu où il a établi la mémoire de son nom. Nous terminons par le passage connu de l'Apocalypse. Au début de l'Apocalypse, déjà au chapitre 1er, au verset 12 du chapitre 1er, « Et je me tournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or au milieu des 7 lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint aux mamelles d'une ceinture d'or. » Au chapitre 2, au verset 1er, qui est à l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. » 7 lampes d'or, figure de 7 assemblées, dont les caractères nous sont donnés dans ces diverses épîtres, objet des chapitres 2 et 3 de ce livre. 7 lampes. Il y avait déjà 7 lampes au chandelier un pied central, une tige centrale. Et le Seigneur est là, présenté comme marchant au milieu des sept lampes d'or. Il est celui qui prend connaissance de l'état de ses assemblées. Ceci ne saurait signifier qu'il n'y a que sept assemblées, mais c'est un tableau complet que l'Esprit de Dieu place devant nous et qui trouve son expression dans ces sept assemblées choisies pour traduire les conditions variées, spirituelles, de cette assemblée considérée sous l'histoire de sa responsabilité. Mais il marche au milieu des sept lampes d'or. Il est celui qui prend connaissance de l'état de ses assemblées, de son assemblée et de ses assemblées dans ses expressions locales. Et il est très frappant de voir que chacune des sept lettres adressées aux sept assemblées ou sept églises commence par cette expression « six fois je connais et une fois je sais ». Nous avons affaire à celui aux yeux duquel rien n'échappe. Il marche au milieu des sept lampes d'or et il commence en s'adressant à chacune d'elles par les rendre conscients du fait qu'il connaît toutes choses. La connaissance de Dieu est quelque chose de toujours solennel. Nous connaissons bien le psaume 139 qui nous en parle. On peut dire que pour l'incrédule, la conscience de la toute connaissance qu'a le Seigneur devrait être quelque chose de terrifiant. Pour le croyant, c'est toujours quelque chose de sérieux de savoir que le Seigneur connaît toutes choses. Pour l'affligé qui passe par la souffrance, quelle consolation, quel réconfort lorsqu'il réalise qu'il a affaire avec celui qui connaît toutes choses. Il marche au milieu des sept lampes d'or, ceci est répété par deux fois, et il tient aussi les sept étoiles dans sa droite. On n'entrons pas dans ce vaste et beau sujet, les lampes étant des assemblées, les étoiles étant l'ange des assemblées, c'est-à-dire la partie consciente de la responsabilité qui est la sienne. Nous disons parfois, c'est la partie responsable de l'assemblée, mais nous pourrions dire quelle est la partie qui n'a pas de responsabilité dans l'assemblée. C'est la partie consciente de sa responsabilité. Il marche au milieu. Et au chapitre 5, nous retrouvons encore le Seigneur au milieu. Au verset 6e, dans cette scène céleste du chapitre 5, « Je vis au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux. » Celui qui a été crucifié au milieu, celui qui est présent au milieu des siens sur la terre, honorant cette promesse qu'il leur a laissée, est aussi et sera vu, contemplé par les siens glorifiés, comme occupant cette place centrale au milieu du trône. Nous attendons ce jour éternel dont nous pouvons déjà, dans une mesure, hâter la jouissance dans nos cœurs, mais nous attendons avec impatience ce moment qui fera suite à sa venue, ou alors introduit dans la maison du Père, nous verrons celui que l'Éternel s'est plu à honorer, cet homme haut placé, qu'il a élevé très haut et qu'il a placé au milieu du trône, mais qui conserve dans son corps d'homme glorifié, qui conserve ce caractère et les signes de celui qui a été immolé. C'est l'agneau qui s'est substitué à la Pâque, au sujet de laquelle le Seigneur a pu dire « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. » Il devient l'agneau qui est sacrifié. Il reste éternellement l'agneau qui a été immolé. Nous attendons en effet ce jour de gloire dans cette scène céleste pour lui adresser la louange. Mais déjà maintenant, de nos cœurs monte à son adresse la reconnaissance et l'adoration.